Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, John Lyndon et Morgan Guerriec en votre compagnie. Bienvenue dans cette édition du vendredi 2 septembre 2016. Au sommaire ce soir.
Au Gabon, les troubles post-électoraux gagnent les villes de province. Nous ferons le point avec notre envoyé spécial sur place.
Attaque contre un poste de douane à Marcoy au Burkina Faso. Deux personnes ont été abattues.
Ne manquez pas nos chroniques quotidiennes sur la présidentielle américaine.
Et bien sûr, l'économie et les sports, juste après le journal.
Au Gabon, les troubles post-électoraux gagnent les villes de province, notamment dans le nord, proche du Cameroun, où la situation est particulièrement tendue depuis l'annonce mercredi de la réélection du président sortant Ali Bongo Ondimba. Alors, on se rend tout de suite à Libreville, au Gabon, pour retrouver Idriss Fall, notre envoyé spécial sur place. Bonsoir Idriss Fall.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous les auditeurs de la part de l'Amérique.
Alors, quels sont les derniers développements de l'actualité ce vendredi, Idriss?
Les violences ont continué dans les quartiers de Iaï, les violences ont continué dans la périphérie de Bouzoum, de Libreville, particulièrement au PK 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à PK 12. Les violences ont continué à Nkembo. Et les violences aussi sont restées pareilles à Lambaréné, dans le centre du pays, à Oyem, dans le nord du Gabon, et à Franceville, la ville rebelle, qui est la capitale économique. Et les 26 leaders de l'opposition qui sont, je ne dirais pas résidents surveillés, en état de siège au quartier général de Jamping, le sont toujours. J'ai pu leur parler, ils ont donné un bilan de 17 personnes tuées, alors que les autorités, notamment le ministre de l'Intérieur, M. Pacom Boubeya, a parlé seulement de 3 morts. La ville est vide, les gens se battent pour avoir du pain, il y a de longues files devant les boulangeries, il n'y a pas de taxi, Internet est coupé depuis mercredi et apparemment ça vient remis, si je m'en remets, au moins avant 3 heures. Donc c'est ça l'état global, le pays est encore très, 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 très tendu.
Et quand vous parlez de violence, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi exactement il s'agit?
En fait, c'est des jeunes qui érigent des barricades, qui brûlent des bâtiments publics, l'Assemblée nationale, le siège du quotidien national qui s'appelle l'Union pour ce qui est de Libreville, des voitures incendiées, des magasins éventrés et des gens sont venus se servir avec leurs brouettes, des hôtels attaqués à Lambaréné. Donc, globalement, c'est d'une violence qu'on a rarement vue. Les autorités accusent des assaillants parce qu'ils se disent que pour des manifestations politiques, on ne devrait pas piller, brûler, attaquer des domiciles privés. Mais c'est ça l'état actuel des choses actuellement au Gabon.
Merci Idriss et prenez soin de vous. Faites attention.
Au Burkina Faso, une nouvelle attaque a eu lieu dans le nord. On parle de 2 morts, Bagassi Koura.
2 hommes ont été tués dans cette attaque perpétrée dans la nuit de jeudi à vendredi par un groupe d'individus non encore identifiés. La cible, c'était un poste de douane de Marcoy dans la province de Loudalan, à la frontière avec le Mali et le Niger. Selon Mahamadou Mahaman Maïga, le maire de la commune de Marcoy, les assaillants ont emporté une moto de la douane et des renforts ont été déployés dans la ville. Le nord du Burkina Faso, frontière du Mali et du Niger, a connu plusieurs attaques ces derniers mois. En janvier 2015, un couple d'Australiens avait été enlevé dans la zone. Madame Elliott avait été libérée quelques semaines plus tard au Niger, mais son mari, Dr Elliott, est toujours entre les mains de ses ravisseurs, probablement des groupes djihadistes du Nord Mali, dont un avait revendiqué le rapt. Cet enlèvement du couple Elliott avait eu lieu le 15 janvier, le jour même de l'attentat terroriste de Ouagadougou qui avait fait une trentaine de morts.
Les forces de sécurité maliennes sont elles aussi la cible d'attaques, notamment dans le centre du pays. Hier, des hommes armés qui scandaient Allah Akbar ont mené des raids à Belen-Nitegui, dans la région de Ségou. Il n'y a pas eu de victimes, mais les assaillants ont emporté une moto. Cassine Traoré.
Le poste de gendarmerie de Beleni-Teni, à quelques kilomètres de Sang, région de Ségou, pour ne pas dire au centre du Mali, a été attaqué par trois assaillants bien armés. Ils étaient sur de grosses motos. Après avoir traversé le fleuve du côté du Massina, ils se sont dirigés vers le premier poste de la gendarmerie. Ils ont brûlé deux motos et emporté une. C'est après que le renfort de l'armée malienne est arrivé sur place pour prendre position et rassurer la population. 24 heures avant cette attaque, il y a eu une autre contre les FAMA dans le cercle de Douanza. Les forces de sécurité ont lancé des opérations de ratissage et interpellé plusieurs suspects. D'après des sources sécuritaires, ce sont des attaques simultanées qui visent à chasser les forces de sécurité du Mali de la brousse. Ces mêmes sources affirment aussi qu'il est très difficile d'arrêter ces assaillants parce qu'ils se dissimulent dans la population. Ce vendredi 2 septembre, le poste de Mendoli dans l'arrondissement de Ouo, cercle de Banyangara, toujours dans la région de Mopti, six hommes armés ont attaqué le poste de gendarmerie de cette localité. Un gendarme a été blessé. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le président Denis Sassou Nguesso du Congo est en République démocratique du Congo à l'occasion du dialogue politique. Après avoir rencontré son homologue Joseph Kabila, il a échangé avec une délégation du Rassemblement conduite par l'opposant Étienne Tshisekedi. Selon Martin Fayulu, membre du Rassemblement qui a participé à la rencontre, la délégation n'a fait que remettre son mémo au président Denis Sassou Nguesso. Il est au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Ce que nous faisons aujourd'hui, et nous l'avons dit au président Sassou, nous lui avons remis un mémo. C'est notre mémo qu'on a envoyé à Mme Zuma avec nos termes de référence pour un dialogue franc, inclusif et sincère. Donc nous attendons que le président Sassou Nguesso fasse son travail pour que nous puissions rencontrer les amis. Et aujourd'hui, il y a deux camps. Les camps de Béatrice et Kanchachi, plus les camps des rassemblements avec les gens qui partagent le même ou la même vision que nous. La réunion aujourd'hui, nous voulons un dialogue selon la résolution 2277. Et ce n'est pas ce dialogue que M. Kodjo préside. M. Kodjo préside le dialogue de M. Kabila.
Qu'est-ce que le président Sassou Nguesso attend de vous? Qu'est-ce qu'il vous a demandé?
Il ne nous propose rien. Il nous a écoutés. C'est un président d'une république sœur et qui est venu nous entendre et voir ce qu'il peut faire. Maintenant, c'est à lui, il consulte. Il a dit qu'il a vu M. Kabila, il nous a vus, il va voir les noces apostoliques, et puis il va tirer les conclusions.
Les représentants du Conseil de sécurité de l'ONU au Soudan du Sud sont arrivés au Soudan, dans la capitale Djouba, pour tenter de convaincre le président Salva Kiir d'accepter le déploiement d'une force régionale sous peine de sanctions. Et...
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, le président Islam Karimov, à la tête de l'Ouzbékistan depuis plus d'un quart de siècle, est décédé aujourd'hui et des suites d'une hémorragie cérébrale. C'est ce qu'a annoncé dans la soirée la télévision publique ouzbek. Chers compatriotes, c'est avec immense chagrin dans nos cœurs que nous vous annonçons la mort de notre cher président, a déclaré le présentateur.
Et puis, 9 membres des forces de sécurité irakiennes ont été tués par des djihadistes du groupe État islamique lors de combats au nord de Bagdad, ont rapporté ce vendredi des responsables de sécurité. Les forces irakiennes sont actives plus au nord en vue de l'opération militaire pour la reconquête du dernier grand bastion de l'État islamique en Irak, Mossoul. Ce dernier peut être repris aux djihadistes d'ici la fin de l'année 2016, a estimé mardi le général américain Joe Votel, chef du commandement militaire américain au Moyen-Orient.
La Russie et les États-Unis pourraient parvenir bientôt à un accord sur une coopération en Syrie. C'est ce qu'a estimé aujourd'hui le président russe Vladimir Poutine. Nous avançons petit à petit dans la bonne direction et je n'exclus pas qu'on puisse se mettre d'accord bientôt sur quelque chose et l'annoncer à la communauté internationale, a déclaré M. Poutine, interrogé par Bloomberg et selon des propos diffusés par le Kremlin en marge du Forum économique de l'Est à Vladivostok. Moscou et Washington qui effectuent séparément des frappes contre les djihadistes dans ce pays sont en désaccord sur le sort du président syrien Bachar al-Assad, le premier étant fermement opposé à son départ réclamé par le second.
La justice française a renforcé le contrôle des femmes de retour de Syrie après avoir un temps sous-estimé leur dangerosité, a déclaré le procureur de Paris François Molin, chargé des enquêtes sur les attentats djihadistes.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. La Minute Éco, c'est tout de suite avec Michel Joseph.
La filiale camerounaise du groupe France Télécom est visée par une plainte déposée au Cameroun par la Fédération camerounaise des consommateurs auprès du régulateur local des télécommunications pour publicité mensongère sur l'offre de la 4G. Officiellement, au Cameroun, aucun opérateur ne dispose de fréquence 4G. L'agence de régulation des télécommunications a assuré qu'elle allait adresser une demande d'explication à l'opérateur incriminé. Au Nigeria, Aero Contractors et First Nation Airlines ont décidé de suspendre leur vol. Les deux compagnies aériennes ont pris cette décision stratégique qui devrait leur permettre de trouver des solutions pouvant leur permettre d'être plus rentables. Le Nigeria fait face à une récession du fait de la chute des cours du pétrole. Selon SBM Intelligence, plus de 4 millions de personnes ont perdu leur emploi depuis 2014. Les chiffres de l'emploi aux États-Unis en août ont déçu les attentes. L'économie américaine a généré 150 000 nouvelles embauches, alors que les analystes tablaient sur 180 000 après les 275 000 du mois de juillet. Le taux de chômage demeure à 4,9%, au même niveau depuis trois mois.
Une musique qui ne trompe pas, nous sommes en sport, Bagassi Kouraï dans ce studio. Bagassi, bonsoir.
Oui, bonsoir John, bonsoir à tous.
La dernière journée des qualifications Lekken 2017 démarre ce vendredi.
Oui, avec Afrique du Sud, Mauritanie, le Soudan qui joue contre le pays organisateur de la prochaine CAN, le Gabon. Cette dernière journée dévoilera surtout l'identité des six derniers participants à la phase finale au Gabon. Outre le pays hôte, l'Algérie, le Cameroun, l'Égypte, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Mali, le Maroc, le Sénégal et le Zimbabwe sont déjà assurés de disputer la phase finale. Le premier de chacun des 13 groupes se qualifie en compagnie des deux meilleurs deuxièmes. Parmi les têtes d'affiche du continent, la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre et leader du groupe I, n'a pas le droit à l'erreur contre la Sierra Leone, sa voisine. Tout comme le Burkina Faso, finaliste en 2013 et en tête de la poule D, qui sera face au stade du 4 août de Ouagadougou au Botswana, alors que la Tunisie, deuxième du groupe A, est en danger avant d'accueillir le Libéria.
Les trois candidats à la présidence de l'UEFA déclarés éligibles par la FIFA.
Et là, nous sommes en football. Séverin, les noms des candidats, bien sûr, c'est Séverin de la Slovénie, Van Frag des Pays-Bas et Villar Llona de l'Espagne. Ils ont passé donc avec succès le contrôle d'éligibilité de la Fédération internationale de football, c'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la FIFA. Ce contrôle d'éligibilité a été effectué par la FIFA car celui qui sera élu à la présidence de l'UEFA deviendra automatiquement vice-président de la FIFA. L'élection de l'UEFA est prévue le 14 septembre à Athènes, en Grèce. Ces trois candidats briguent donc la succession de Michel Platini, président de l'UEFA depuis 2007, mais qui s'était retiré après avoir été suspendu par la justice interne de la FIFA pendant 4 ans de toute activité liée au football.
On va parler de rugby. Bagassi. 4 candidats à l'organisation de la Coupe du Monde 2023.
Oui, c'est la France, l'Irlande, l'Italie et l'Afrique du Sud qui sont donc officiellement candidates à l'organisation de la Coupe du Monde de rugby 2023. C'est ce qu'a annoncé World Rugby, l'organe suprême du jeu, ce vendredi au lendemain de la clôture des candidatures. Le pays qui succédera au Japon, hôte de l'édition 2019, sera désigné en novembre 2017, a précisé l'institution. Il faut dire que le rugby n'est pas un sport assez populaire en Afrique comme le football. Je ne sais pas s'il y a une fédération même au Cameroun chez vous, John.
Je vais chercher à savoir.
Voilà, merci.
Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Morgan Guiriek et John Lyndon en votre compagnie. Place au dossier du jour, première escale, le Gabon.
L'ONG Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, la RADO, a déploré ce qu'elle appelle l'inaction africaine face à la crise post-électorale dans ce pays. Elle a appelé à l'arrêt immédiat de la violence, de même qu'elle a demandé à l'État gabonais de mettre un terme à l'usage disproportionné de la force et aux privations de liberté des opposants sans fondement légal. Timothée Donangma est adjoint à Dakar, Aboubakri Modj, secrétaire général de la RADO.
Nous sommes très préoccupés par l'escalade de la violence depuis la proclamation des résultats du scrutin. Et nous déplorons aussi que jusqu'à présent, il n'y ait pas une initiative sérieuse en matière de diplomatie africaine pour contenir la crise et surtout soutenir le peuple gabonais dans cette situation difficile.
Vous notez l'inaction de l'Union africaine. On remarque également un mutisme au niveau de la région Afrique centrale où se trouve le Gabon. Comment s'expliquent ces attitudes?
Il y a une inaction de la part de la communauté des États de l'Afrique centrale qui devrait être en premier lieu, au premier chef, dans les missions diplomatiques pour ramener la paix et la sécurité dans le pays.
Le Tchad a connu une situation presque similaire à celle que connaît le Gabon aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas un handicap pour le président en exercice de l'Union africaine, le président Idriss Déby Itno?
Oui, dans tous les cas, il est président en exercice. Il devrait aujourd'hui prendre son bâton de pèlerin et appeler tous les États membres de l'Union africaine pour essayer de trouver une solution de sortie de crise. Si le problème du Gabon n'est pas résolu et que ça s'empire, c'est toute la sous-région qui risque de s'embraser. D'autant plus qu'on connaît également les élections qui se sont déroulées en République du Congo où il y a eu de fortes contestations où l'adversaire principal, le général, également est aujourd'hui en prison. Donc c'est une situation fort préoccupante pour l'Afrique, pour la sous-région, et qui connaît également ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la République démocratique du Congo, où nous sommes assis également sur une poudrière.
Aboubakri Modj, secrétaire général de la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, la RADO, joint à Dakar.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
50 nouvelles plaintes de familles burundaises pour des cas de torture, d'exécution extrajudiciaire et de disparition ont été déposées par un groupe d'avocats auprès de la Cour pénale internationale et auprès du Haut commissaire aux droits de l'homme des Nations unies. Claire Morin-Djibour a joint l'un de ses avocats, Bernard Mengen.
Nous avions déposé une plainte pour 60 familles, ce qui était déjà un geste très très courageux parce que c'était des personnes qui vivaient au Burundi pour la plupart d'entre elles. Et ici, nous complétons cette plainte avec 50 nouvelles familles qui nous font confiance et ce, malgré toutes les pressions qui ont été exercées pour que les gens se détournent des avocats des parties civiles.
L'État burundais affirme que les ONG de défense des droits de l'homme sont instrumentalisées par les États occidentaux. Que pouvez-vous répondre à cette allégation?
Je ne suis membre d'aucune ONG. Je ne suis financé par aucune ONG. Je ne suis financé par aucun État. Je fais mon travail d'avocat. Aujourd'hui, ce sont des défenses qui ne sont pas faciles parce que les temps sont durs, les gens sont pauvres. Et comme avocat, j'estime qu'il faut continuer malgré tout le combat pour l'état de droit, pour la justice.
Devant quelle juridiction cette plainte va pouvoir être portée? Est-ce que vous le faites en Belgique? Est-ce que vous le faites devant la CPI? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Alors, le juge naturel de ce genre de crime, c'est le juge au Burundi. Mais vous savez qu'aujourd'hui, la caractéristique du pouvoir judiciaire burundais, c'est qu'il est instrumentalisé à un point tel que la défense dérangeante, celle que nous portons, n'est plus acceptée. Moi, je suis interdit de séjour. Maître Armel Nyangéré fait l'objet également de poursuites pour complicité de putsch et on a demandé sa radiation. Donc, on assiste aujourd'hui à un processus où on empêche la défense d'agir.
Bernard Mengen, avocat au barreau de Bruxelles et membre du collectif des avocats des victimes burundaises.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi. Et nous partons maintenant au Niger, dans la région de Diffa.
Un projet visant à céder 120 000 hectares de terres agricoles à une société saoudienne suscite bien des controverses. Le bail s'étendrait sur 90 ans. Les élus locaux ont donné leur aval, mais le gouvernement temporise et des organisations de la société civile crient à l'accaparement des terres agricoles. Correspondance d'Abdoul Razak Idrissa.
C'est à travers une de ses succursales dénommée Niger Rivers que la société saoudienne Al Hurech veut réaliser ce projet de mise en valeur des terres agricoles et pastorales. Elle est dans un premier temps intéressée par celle du bassin du lac Tchad dans sa partie nigérienne. Le document du projet parle de 120 000 hectares. Et pour cela, elle a obtenu déjà l'aval du conseil régional de Diffa. Meirou Malam Ligari en est le président.
Ces 50 000 hectares seront aménagés avec des équipements modernes. Et comme dans le monde entier, quand il y a un projet comme ça d'intérêt général, ça va susciter le déplacement des villages. Quand il y a un projet d'intérêt général, il y a quelques hameaux qui peuvent être déplacés. Nous apportons la richesse pour que cette population ne soit plus pauvre de ses potentialités. Parce qu'aujourd'hui, elle est pauvre de ses potentialités, qu'elle n'exploite pas. Mais elle verra, ça va être un Eldorado, même pas la région de Diffa. Tous les Nigériens iront travailler là-bas pour ça.
Pour l'instant, selon des sources, le gouvernement a demandé aux deux parties de surseoir à une quelconque signature pour matérialiser le projet. Un collectif d'organisations de la société civile demande aux autorités nigériennes d'aller plus loin en faisant simplement arrêter le processus. Moussa Kiangari, secrétaire général de l'association Alternative Espace Citoyen, une de ces organisations.
Bien sûr, on parle de 10 000 emplois qui seront créés, mais c'est aussi quelque part, ça c'est les emplois d'ouvriers agricoles, quoi. Mais de l'autre côté, ça va impacter les activités que les gens font, à savoir donc l'élevage, qui est une des activités phares de la région. Parce que si on laisse la possibilité à des grandes compagnies de venir acheter ou louer des terres chez nous, eh bien, ça sera fini de la petite production familiale, de l'agro-industrie qui va s'installer. Et ce serait quand même une perspective plutôt sombre.
Le collectif d'organisation de la société civile se dit convaincu d'un retour très proche de cette société pour tenter d'acquérir ces terres agricoles, pas seulement dans le lit du lac Tchad, mais également autour du fleuve Niger, d'où d'ailleurs le nom du projet Niger Rivers. Il appelle alors à une grande vigilance contre l'accaparement des terres agricoles par des investisseurs étrangers. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Présidentielle américaine 2016, le candidat républicain Donald Trump poursuit son offensive de charme en direction des minorités. Il visitera ce week-end une église de Detroit à majorité noire. En tête dans les sondages, la démocrate Hillary Clinton continue de faire face à la controverse liée à ses activités du temps où elle était secrétaire d'État. Le point avec vous, Timothée Donongmaï.
Selon l'équipe de campagne de Donald Trump, le milliardaire présentera les grandes lignes de sa politique en faveur des minorités et des nécessiteux ce week-end. Le voyage de Trump à Détroit, ville à 83% noire, intervient après les critiques des Africains-Américains qu'il accuse de généralisation abusive à l'endroit de leur communauté. Le candidat républicain, qui s'adresse habituellement à un public majoritairement blanc, tentera de persuader les Noirs de regarder de plus près son projet de société. Il faut dire que les Africains américains, qui constituent entre 12 et 13% de la population des États-Unis, votent en majorité pour le Parti démocrate. Barack Obama, premier président noir du pays, a remporté 95% et 93% de leurs suffrages aux deux dernières élections présidentielles. Selon Donald Trump, cette loyauté des Noirs est payée en monnaie de singe par les politiciens démocrates. Citant récemment les maux auxquels sont confrontés de nombreux Noirs, notamment la pauvreté et le fort taux de criminalité, Trump les a exhortés à voter pour lui. Qu'avez-vous à perdre au juste ? Leur avait-il lancé.
Les voix des minorités font l'objet d'une âpre lutte cette année entre les deux principaux candidats à la présidentielle. Donald Trump et Hillary Clinton s'accusent mutuellement de racisme. Malgré son avance dans les sondages, l'ancienne secrétaire d'État continue d'avoir des soucis en rapport avec ses activités à la tête de la diplomatie américaine, Timothée.
Dernier développement de cette saga, la décision du département d'État de rendre public des détails du calendrier de Mme Clinton du temps où elle était secrétaire d'État. Après avoir récemment procédé à une analyse partielle de ce calendrier, l'agence Associated Press avait conclu que certaines personnalités ayant rencontré Hillary Clinton au département d'État ont aussi fait des dons à la Fondation Clinton. Associated Press, qui n'a rien détecté d'illégal, estime néanmoins que cette situation soulève des questions de conflit d'intérêts. Le camp de Mme Clinton a rejeté cette conclusion, soutenant de son côté que l'analyse de Associated Press est biaisée parce qu'elle n'a pas pris en compte toutes les réunions de Mme Clinton, ses appels téléphoniques, de même que ses rencontres avec des responsables gouvernementaux américains ou des dignitaires étrangers. Cette controverse pourrait être relancée par les nouveaux documents que s'apprête à publier le département d'État concernant l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton.
Et Timothée Donongmaï, merci.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Sans regarder en arrière, ferai la pluie et le beau temps pour t'aimer comme avant. Tous ces moments inavoués, perdus à tout jamais, mais je ne connais pas l'amertume. Je t'attends. J'aime tant cette aventure, je cours à mille allures, armé de cette photo, de nous deux au bord de l'eau.
Voilà, Elisio, ne me laisse pas, c'est la fin de cette édition. Michel Joseph a dirigé la mise en onde avec l'assistance de Justin Tweet à la console. Présentation Morgane Guiriec et John Lindon.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de VO Afrique. Merci à nos fans sur Facebook. Vous êtes plus de 1 700 000. On maintient la conversation. Enfin, n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.